à tous, merci d'être venus. Donc pour cette table ronde qui s'intitule Big Brother is Adapting You, cinéma et littérature quand les utopies virent au cauchemar. Donc autour de moi, donc quatre invités. Donc tout au bout, je devrais dire monsieur Raphaël Colson, essayiste notamment. À côté de lui, Sarah Doc, donc l'auteur. À côté, Paul McCauley, donc un confrère britannique qui est venu nous prêter main forte. Et à ma droite, Ginger Force, une youtubeuse qui parle notamment dans certaines chroniques des adaptations de certains livres au cinéma. Donc peut-être que vous avez envie de rajouter des choses à votre présentation.
No, that's fine.
Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler, donc, en tout cas, on va essayer au mieux de parler d'utopie, de dystopie, de contre-utopie et d'uchronie. Ça fait beaucoup de mots. L'utopie, comme chacun sait, c'est imaginer, en tout cas, essayer de penser un monde idéal tel qu'il pourrait être éventuellement. On a, à partir de ce point-là, plusieurs dérivations possibles. La première serait la contre-utopie. La contre-utopie, bah, c'est au lieu de se diriger en ligne droite vers un superbe monde, un superbe Éden, on se dirige vers l'enfer, vers l'opposé. On a également la dystopie. La dystopie, c'est quand on a d'abord une utopie et qu'ensuite on a un renversement des choses. Et enfin, l'uchronie, pour définir simplement, l'uchronie, c'est quand on reprend l'histoire telle qu'elle est connue dans notre siècle, qu'on change juste un petit élément et qu'on part sur un avenir ou un passé un peu différent. Donc déjà, sur ces quelques définitions, je vais voir si mes collègues ici auront des choses à rajouter peut-être.
Okay, I might say a few slow words.
Je vais essayer de dire quelques mots lents.
I've always thought that I had the thought that utopia may be defined as the place where we might want to live, and dystopia is the place where we might want to leave.
J'aurais tendance à penser que l'utopie est l'endroit où on aimerait vraiment vivre et la dystopie l'endroit où on aimerait vraiment, dont on aimerait vraiment partir.
But if you look at a utopia, certainly in literature, they're quite often singular visions, they're places which have been invented by people who've got very specific ideas of what's good, a good way of living.
Mais quand on regarde les utopies littéraires, on se rend très vite compte que c'est la vision particulière d'une personne sur ce qui serait l'idéal d'une société.
And that's not necessarily the way that most people want to live.
Ce qui n'est pas nécessairement la manière dont le reste du monde aimerait vivre.
So perhaps dystopias are a kind of universal idea, because we've all got pretty much an idea of what is a society that's gone wrong.
Par contre, c'est ainsi qu'on peut dire à ce moment-là que la dystopie est beaucoup plus universelle, puisque nous avons tous une idée assez précise de ce qu'est une utopie ou un monde qui s'effondre ou qui va vraiment dans le mauvais sens.
So in a way, all dystopias are quite similar to each other.
Ce qui fait que la plupart des dystopies sont assez similaires.
Whereas utopias are often quite distinct from each other, and they're given quite detailed visions of good ways of living, which are very various.
Tandis que les utopies sont elles souvent très différentes les unes des autres, selon les idées de chaque auteur de ce que serait la bonne manière de vivre ensemble.
So it's a little bit like the opposite or the inversion of the famous opening line of War and Peace. Tolstoy's War and Peace.
Ce qui, en fait, ça revient quelque part au contraire de la phrase d'ouverture de Guerre et Paix.
You know, the one about all happy families being alike.
Qui dit que toutes les familles heureuses sont semblables.
Utopia is a happy place, is that we're all different.
Alors que l'utopie est un endroit de bonheur qui est systématiquement différent.
And dystopias are unhappy places, which are perhaps, and perhaps this is something we can discuss in a bit, which are quite similar.
Tandis que la dystopie est donc le malheur, et à ce moment-là beaucoup plus différent, et c'est peut-être une chose dont on pourrait discuter.
Okay.
Ça tombe plutôt bien parce que c'était la fin de mon introduction, de dire qu'on ne peut pas réfléchir sur quelle utopie au singulier, de quelle utopie on peut parler, mais de quelle utopie et de quel avenir plutôt au singulier on peut envisager à toutes ces différentes formes d'utopie. Donc la conférence ne parle pas que, le tableau ne parle pas que de l'utopie. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on va essayer de s'intéresser peut-être au passage de l'utopie à la dystopie. Et notamment quelque chose qui me semblait assez important, c'est-à-dire le tournant marquant du début du XXe siècle et de la Première Guerre mondiale qui sont marqués les premières dystopies de façon, dans la littérature. Ce n'est pas là que les premières dystopies sont apparues, mais c'est à partir de ce moment-là où la dystopie a pris un essor considérable dans la littérature moderne. Et notamment donc Première Guerre mondiale, ensuite les années 30 et les divers fascismes en Europe, puis la Deuxième Guerre mondiale, tout un tas d'ouvrages qui ont pu nous donner des ouvrages comme ceux d'H.G. Wells, comme Le Meilleur des Mondes ou La Guerre des Mondes, et voir comment, ici les collègues ici présents sont d'accord, comment l'horreur, l'inhumanité, les désillusions ont créé ces réactions épidermiques et ont fait émerger de façon globale la forme de la dystopie.
En tirant des faits, l'utopie, la première utopie, c'est 1516, l'utopie de l'utopie. Il y a une tradition qui va se poursuivre jusqu'en 1914. Il ne faut pas oublier que historiquement, le 19e siècle, c'est un siècle des révolutions industrielles. Et il y a tout un courant de pensée qui est le progrès permettra une évolution de la société et un bien-être pour l'ensemble de la société. Donc, on pourrait citer des textes comme Bellamy. Il y a une autre utopie de.
J'ai pris un petit papier.
Alors, Edward Bellamy, qui est un Américain qui a écrit une utopie en 1898, une utopie techniciste, c'est-à-dire révolution de la société par la main du progrès et de la technique. Et il y aura un livre de Maurice qui va répondre sous un autre angle, qui est un texte de 1894, New From Nowhere. Et donc, il y a une lutte comme ça, c'est-à-dire que le 19e siècle, c'est aussi l'apparition de grandes théories politiques, c'est-à-dire le communisme, l'anarchisme, le socialisme, le capitalisme lié à la libéralisme. Et donc, c'est tout un ensemble de, voilà, de bouillonnements intellectuels et politiques. Et il y a des auteurs qui se mettent pour produire des utopies et qui, effectivement, produisent leur vision utopique. C'est aussi très important, juste en rappel historique, c'est que l'utopie au départ, c'est le lieu de nulle part. C'est-à-dire les auteurs qui conçoivent une société idéale quelque part. C'est un lieu non déterminé.
C'est pour ça que Thomas More place l'utopie sur une île, qui est le modèle de l'isolement.
Et il y a une étape vraiment importante, c'est en 1770, un Français qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier. Il fait un livre qui s'appelle L'Ombre, 1440. Et si vous voulez, c'est la première utopie qui est projetée dans le futur. Donc on a un basculement du lieu de nulle part au futur. Donc, l'histoire de l'humanité. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est un dormeur éveillé. Donc le concept du dormeur éveillé, c'est un personnage qui s'endort et qui va se réveiller un siècle, deux siècles, trois siècles plus tard et qui va découvrir une autre société. Et donc, il va devenir l'observateur contemporain, c'est-à-dire nous, le lecteur, qui, lisant le livre à l'époque, découvrons une société idéale dans un futur. Et d'ailleurs, les textes de Bellamy et autres sont toujours sur le principe du dormeur éveillé, c'est-à-dire qu'on projette le spectateur, le lecteur en présent, dans un futur. Arrivé pour finir sur cette histoire La guerre de 1914-1918, la Grande Guerre, marque une désillusion, c'est-à-dire que la science, le progrès, la technologie peuvent être utilisés à des fins guerrières. Je ne passerai pas toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale, mais c'est l'arrivée de l'aviation, du bombardement, des gaz de combat, du char d'assaut, donc toute une technologie qui est au service de la guerre. À partir de ce moment-là, on va dire en termes d'imaginaire, l'imaginaire européen bascule de l'utopie à la dystopie. Et qui appartient donc au cours de l'entre-deux-guerres.
Je peux juste reprendre là-dessus. Ce que dit Raphaël sur cette technologie qui apparaît et qui choque les publics européens, c'est très présent quand on lit des romans de cette époque, quand on lit Barbus, quand on lit Hemingway, quand on lit Sandra ou d'autres. On voit que quand ils se retrouvent entre deux tranchées face à un char ou qu'ils reçoivent. Qui voit passer un avion adverse au-dessus de leur tranchée, qui se demande où ils sont, dans quel temps, dans quel moment, dans quel lieu ils sont. Et du coup, c'est pas qu'une spéculation d'historien, d'analyste, de critique, c'est vraiment quelque chose qui, sur le moment, en 1915, dans l'Artois, Barthes se demande mais où je suis, pourquoi je suis là, est-ce que je suis en France, est-ce que je suis dans l'Artois, non, je ne sais pas.
Et ce qui est donc assez important, c'est qu'en Europe, et notamment en Angleterre et en France, qui sont des pays qui ont une énorme tradition de littérature et de science-fiction, c'est-à-dire en renvoi au futur, à ce moment-là, les Européens deviennent sceptiques. Et il y a une évolution d'un courant littéraire qui se rend en Angleterre et en France, qui est ce que j'appelle post-apocalyptique, et donc c'est l'effondrement de la civilisation par la guerre. Mm-hmm. Après 1945, ce sera la bombe atomique. Ce sera l'outil de destruction totale de la civilisation. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à cette époque, aux États-Unis, l'Amérique va être touchée directement par la guerre, donc elle conserve une confiance envers le progrès de la technologie. Et il y aura un courant encore, donc l'âge d'or de la culture science-fictive américaine, donc de l'entre-deux-guerres, de continuer à produire un futur. Il y aura un changement après 45 avec la bombe atomique. Donc la dystopie, c'est vraiment lié à cette césure de la Grande Guerre, c'est-à-dire le basculement de l'utopie à une vision plus nuancée, plus critique à l'égard du progrès de la science.
Je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est qu'en effet, les Américains n'ont pas été directement touchés par la guerre. Par contre, ils ont vu revenir en 1918. Énormément de jeunes gens en très mauvais état, énormément de jeunes gens handicapés qui sont devenus aveugles, sourds, qui ont perdu des membres, etc., à cause de la guerre, à cause des gaz, etc. Mais il y a eu des actions qui ont été faites directement par les gouvernements américains pour faciliter la vie de ces jeunes hommes et leur faciliter l'accès aux lieux, par exemple. Et c'est vraiment dès 1919 que les Américains ont ouvert des écoles de langue des signes, ont facilité l'accès des handicapés aux différents lieux, etc. C'est ce qui fait aussi que le progrès a été vu comme une bonne chose, puisqu'elle aidait les vétérans à survivre à leur handicap.
Chose qui en France était assez nuancée, puisque à part les Invalides à Paris, il y avait très peu de structures pour accueillir ce qu'on appelait les délicatessés par la suite. Donc les gens se retrouvaient avec les membres de leur famille qui avaient la chance de revenir du front et devaient les aider à leur charge.
J'aimerais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du fait de sauter très très loin dans l'histoire et de voir l'évolution. Ça fait penser notamment au Voyageur imprudent de René Barjavel, dans lequel, pour celles et ceux qui n'ont pas lu, on a un personnage qui invente une sorte de composé qu'il appelle la Noélite. Il se fait une espèce de combinaison entre les cosmonautes et l'artiste de Noélite, et ça lui permet de faire des bonds dans l'histoire, que ce soit en avant ou en arrière, dans le passé ou dans le futur. Et il va dans le futur, où d'un moment il se dit « je veux savoir comment l'humanité évolue » et il bondit, je crois, plus de 300 000 ans plus loin. Et il se rend compte que la Terre a complètement changé, que les êtres humains ont été divisés selon leurs fonctions. Par exemple, il y en a qui ont des énormes oreilles, histoire de repérer, d'avoir une ouïe exceptionnelle pour pouvoir repérer les bruits. Il y en a qui ont, par exemple, les vaches n'ont plus qu'un seul pied, parce qu'à quoi ça sert d'en avoir quatre, alors que de toute façon, on a besoin de lait, un seul pied, ça suffit. Et qu'en fait, chaque être humain a évolué en fonction de ce qu'il faisait de ce qu'il faisait plus, tout simplement. Mais est-ce que ce genre de monde est peut-être considéré comme une utopie dans le sens où chaque personne a sa propre fonction, ou est-ce que c'est une dystopie parce que justement il n'y a aucune reconversion possible pour les personnages?
Ça peut être perçu des deux. Mon avis, c'est plus une dystopie, mais ça me fait penser du coup à la machine de iOS, qui est sur le même principe, voyageur dans le temps futur, qui est projeté dans un très loin futur. Et là, c'est intéressant, c'est que c'est une société qui s'est effondrée, et que l'utopie existe, qui est décrite dans le roman, s'est effondrée, et que les descendants de cette société technologique sont devenus des monstres, des morlocks, et que les anciens ouvriers sont. Non, c'est les ouvriers qui sont devenus des morlocks, qui travaillent en fonction des usines, et que l'élite est devenue des anonymes, qui sont devenus des gens sans cervelle, qui sont incapables de concevoir quoi que ce soit. Et du coup, juste de préciser que H.G. Wells est un des premiers auteurs à introduire la notion de dystopie, c'est-à-dire qu'il a un rapport assez critique sur l'évolution de la société technologique, par rapport à ses convictions politiques, notamment des sociétés scientifiques. Et il est surtout aussi l'un des premiers, avec un livre qui date de 1907-1908, qui est la Guerre des airs, et les premiers à mettre en avant la notion de guerre aérienne, de destruction de la société par les guerres. Alors ça, c'est vraiment parce que c'est dans le contexte pré-1914 que l'impérialisme allemand est en train de devenir un véritable problème pour les nations européennes. Et donc, il y a des auteurs, notamment à Wells, qui sentent les choses venir et ils commencent, ils anticipent en fait certains effets technologiques de cette guerre.
D'ailleurs, dans la table ronde précédente avec Christopher Priest, ils ont précisé, je ne sais plus quel intervenant a précisé, que H.G. Wells, quand il a vu Metropolis, qui est un film allemand, qui imagine un futur qui est ce qu'il est, mais voilà, qui fait un peu froid dans le dos, s'est dit non, on ne peut pas laisser faire ça, et a produit du coup, lui, une science-fiction anticipatrice pour contrer un peu cet exemple allemand avec. Un propre roman dont j'ai oublié le titre, je crois que c'est The Thing to Be, si je ne me trompe pas, dans lequel il propose un autre avenir possible. Ouais. Voilà. Parfois la science-fiction peut être utilisée aussi dans ce sens-là.
Mais ce voyage dans le futur pour découvrir une utopie ou une dystopie est encore d'actualité. Il y a un roman des frères Colin qui n'est pas encore traduit en français, mais qui s'appelle The Unincorporated Man, où un homme très riche se fait cryogéniser et cache un trésor autour de lui et se réveille 400 ans plus tard dans une société où chacun est divisé en parts. À la naissance, les parents possèdent 20% des parts de l'individu, l'État en possède 10%. Et au cours de sa vie, on achète et on vend ses parts, par exemple pour aller à l'école, par exemple pour prendre un emploi, etc. Et cet homme, qui est un grand capitaliste, se retrouve là et est profondément choqué par ce fait et va lutter pour ne pas être incorporé, pour ne pas devenir une corporation divisée en actions.
C'est assez rigolo parce que le thème est volontairement placé dans une dystopie. Mais pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité sportive, c'est déjà quelque chose qui existe sur les footballeurs en Amérique du Sud. Un footballeur en Amérique du Sud, son image, son nom de footballeur, de sportif, est divisé entre une partie aux parents, une partie à la famille. Et c'est déjà quelque chose qui existe. Donc voilà.
I just feel I ought to say something about my fellow countryman Herbert George.
Il se dit qu'il devrait quand même dire quelque chose sur son compatriote Herbert George Wells.
The film he mentioned, Things to Come, which he did.
Oui, Things to Come a été adapté au cinéma.
Wasn't a very successful film, actually, but it was an interesting film.
Qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui était très intéressant.
And it's an example, I think, of Wells. Wells was always looking to find a way of expressing utopia. He was always hoping that technology and superior intellect and application of the two would somehow come together to produce a better society.
Et Wells essayait toujours désespérément de tendre vers l'utopie, de voir comment le progrès, la technologie et une intelligence supérieure pourraient construire un monde, une société qui soit la meilleure possible pour tous.
Unfortunately, he was always being disappointed. For instance, he was hopeful that the Soviet Union would produce a kind of utopia. He was a communist.
Mais systématiquement, il était déçu parce que, par exemple, il a placé beaucoup d'espoir dans l'Union soviétique parce qu'il était communiste.
Or at least he was a socialist.
Du moins un socialiste, yeah. Selon le sens de l'époque, en tout cas.
But in an exchange of letters with Lenin, he actually explained to Lenin why he was a better communist than Lenin.
Et donc dans une correspondance avec Lénine, il en est arrivé à expliquer à Lénine pourquoi il lui-même était un bien meilleur communiste que Lénine.
In other words, he knew how he hoped, you know, that Lenin would agree that his ideas of making Soviet Russia better were the best way forward.
Et il espérait que Lénine soit d'accord avec lui, que ses propres idées de comment transformer la société communiste russe pour en faire une meilleure société étaient les meilleures.
And of course, as we know, that it wasn't the best way forward, and this is a problem that Wells had, that history was always taking the, as far as he was concerned, taking the wrong turn.
Et comme on le sait, ça n'a pas eu lieu, et c'est le grand problème de Wells, c'est qu'à chaque fois, l'histoire se liguait contre lui pour lui montrer que ses espoirs n'étaient pas fondés.
So he ended up writing Mind at the End of Its Tether, which is a rather gloomy. Can you translate that title?
I don't know the title in French.
Okay.
In fact. Donc il a fini par écrire Mind is.
Mind at the End of Its Tether, Mind at the End of Its String, or at the End of Its Life.
L'esprit à la fin de son.
Le dernier.
Le dernier bouquin de Wells.
Et par contre, je voulais juste revenir sur le film,
okay.
Parce que juste pour rappel, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a une guerre mondiale qui a duré une trentaine d'années, et l'humanité s'effondre en retournant dans une version médiévale. Mais il y a un personnage qui représente le corps des aviateurs, va impulser une renaissance. Et donc, à la fois, c'est un homme du 19e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui reste à la notion d'utopie, mais que malgré la guerre, on pourra toujours reconstruire et amener une renaissance. Et à l'occasion, je pensais déjà, j'ai plus le titre du texte d'Orwell, Jean Orwell, qui en 1941 écrit un petit texte qui parle de H.G. Wells. Parce qu'H.G. Wells, de la première guerre, de la deuxième guerre mondiale, estime que Hitler, c'est le petit avorton, ce Berlin. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne peut pas déclencher ce qu'il est en train de déclencher. Et pour H.G. Wells, il n'est pas possible qu'un chef guerrier, c'est-à-dire qui représente une vision passéiste, puisse utiliser les outils et la technologie du progrès à des fins guerrières. Et le texte d'Orwell est assez génial là-dessus, parce que Orwell explique. Moi, j'ai été versé par les lectures d'A.G. Wells, qui est une véritable bouffée d'oxygène dans la société victorienne, au niveau de ses avancées en matière sociale. Et Orwell explique qu'il doit tuer le père, d'une certaine manière, puisque A.G. Wells n'a pas compris que même les chefs guerriers pouvaient utiliser la science, la technologie, le béton, l'acier, pour amener une destruction. Et le texte est vraiment intéressant parce que c'est juste le rapport entre russe intellectuel, un du 19e, un du 20e. Orwell, c'est le créateur de 1984, l'un des plus grands russes du 20e. Ça s'inscrit dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire cette phase totalitaire. Et donc, on a à travers ce texte deux visions, deux oppositions de deux personnages, et donc de deux conceptions. Et ça marque bien cette vision de la guerre.
Ça nous amène justement à.
Oui, I think. Paul wanted to say something.
Well, if we're mentioning 1984, I think Orwell was also writing a counter-example to Brave New World, Aldous Huxley.
Oui. 1984 est aussi un roman contre le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley.
Which Huxley claimed, perhaps, somewhat. Can you say, tongue-in-cheek, let's say? Some, no, okay. Well, anyway, Huxley claimed, perhaps jokingly a little bit, that it was obviously a utopia.
Donc Huxley disait avec un beaucoup d'humour que c'était évidemment une utopie.
And Orwell decided, Orwell in part, and it may well have been against Wells as well, he was also writing as a counter-example to this.
Voilà. Et donc c'était de la part d'Orwell un contre-exemple de ce qu'avait fait Huxley.
But if I may just get away from gloomy Europeans for a moment.
Mais si je peux m'éloigner un petit peu de ces moments terribles et déprimants.
You mentioned the sort of hopefulness of the Americans after the war.
Vous avez mentionné l'espoir américain après la guerre.
That they still had a touching faith in technology.
Et qu'ils avaient toujours la foi dans la technologie.
And I suppose I ought to mention it's a terrible novel, but it's by somebody who's quite important, who the Americans think is the father of modern science fiction, Hugo Gernsback.
Mais donc je dois mentionner un texte qui n'est pas très très bon, mais qui a tout de même été écrit par une personne importante, par quelqu'un qui est considéré comme le père de la science-fiction américaine moderne, Hugo Gernsback.
And that's Ralph 124C+.
Donc c'est Ralph 124C+.
Which is a joke in English, which I'm afraid doesn't really translate.
Qui est en fait une blague en anglais, mais qui est difficile à traduire.
But it's about somebody who's empowered by technology.
C'est à propos d'un personnage qui gagne le pouvoir par la technologie.
Who lives in a civilization that's empowered by technology.
Qui vit dans une société qui fonctionne grâce à la technologie.
But what's interesting is that you can take that same idea, the Gernsback idea, and 50 years later, William Gibson wrote a short story, The Gernsback Continuum.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en prenant cette histoire, on voit que 50 ans plus tard, William Gibson a écrit une nouvelle qui était dans le continuum de Gernsback.
Which, without changing anything especially, was a nightmare vision of the future.
Qui, sans changer quoi que ce soit dans ce monde, était en fait plutôt une vision de cauchemar de l'avenir.
So one of the problems with the utopias is that they date very quickly.
Donc l'un des problèmes des utopies, c'est qu'elles sont très rapidement datées.
And perhaps this is one of the problems that Wells and maybe other writers of techno-utopias have, that they go out of date and what they think was good turns bad.
Et c'est peut-être le problème qu'on a avec des auteurs d'utopie technologique comme Wells, c'est que très vite leurs idées et les technologies dont ils parlent deviennent datées et donc ne nous conviennent plus.
C'est d'ailleurs là-dessus que je voulais enchaîner. Paul est absolument parfait. Au niveau justement des utopies technologiques, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, je voulais notamment parler d'Arthur C. Clarke, qui a eu un parcours absolument remarquable à ce niveau-là, qui d'abord, en 1953, je crois, dans Terre, Planète Impériale, donc Imperial Earth en anglais, nous décrivait un personnage qui, arrivé sur la station qui lui permettait de faire la quarantaine entre la Lune et la Terre, sort un outil de sa poche qui fait à peu près la taille d'un carnet, mais qui est complètement technologique, avec lequel il peut passer des coups de fil, recevoir des appels visioconférences, envoyer des courts messages de télétexte, recevoir des fax, enfin bref, un smartphone, en 53. Et dans Le Marteau de Dieu, je crois, The Hammer of God, Arthur C. Clarke, en 1993, pardon, nous livre un regard complètement doux, amer, désillusionné sur toutes ces utopies technologiques dans lesquelles lui-même a participé, en nous disant, bah, écoute, lecteur, on était bien naïf, on a vu ce qu'on voulait en faire, on a beaucoup parlé, mais au final, on en est arrivé là. Je te laisserai, lecteur, seul juge de nos espérances déchues. Et du coup, tout ça, ça nous amène à la question de la neutralité ou non de la science dans l'imagination de l'avenir, dans l'utopie ou dans la dystopie ou dans la contre-utopie. Et de voir qu'à l'heure actuelle, il y a des personnes qui justement continuent on va dire délire, parce que là, on rappelle, nous en parlera, mais ce délire technologiste, cette utopie par le progrès technologique à tout prix, c'est notamment, je pense, le conseiller scientifique de Hillary Clinton, Raphaël, si tu...
Hillary Cross.
Si tu veux en parler.
Oh bah non, si c'est pas prévu plus tard.
Non, ça me semble bien.
Non, c'est juste à la crosse, mais oui, c'est peut-être. C'est le conseiller technologique de Hillary Clinton. Il vient de faire un cours aux États-Unis, donc j'ai plus le titre, qui est on a la futurologie, bien, voilà, à quoi arrive notre avenir là. Et simplement, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, la mondialisation, les années Clinton, la fin de la guerre froide, la globalisation, l'arrivée d'Internet, le progrès technologique, le développement des ordinateurs portables, tout cet ensemble-là technologique, on nous l'a vendu à l'époque comme étant quelque chose qui serait un bienfait pour tous. Il s'avère qu'aujourd'hui, avec 20 ans de recul, la globalisation s'est fondée aussi sur l'exploitation économique, sur la délocalisation, sur une destruction dans l'ensemble du parc de travail par rapport à l'introduction des outils informatiques. Donc, le rêve que nous avons eu, c'est pas vraiment tout à fait un rêve, plus ou moins pour certains. Mais à l'époque, le discours était non rapide. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette interview de l'année prochaine, c'est qu'il nous annonce qu'il y a une nouvelle vague donc de robotisation qui va supprimer tout un ensemble d'emplois. Et bien, ce n'est pas bien grave, il y aura des gagnants ou il y aura des perdants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'essaie même pas de nous vendre un rêve à l'ensemble de la population, ça sera comme ça. Il y aura des gens qui vont perdre et des gens qui vont gagner. Alors moi, de mon point de vue, c'est qu'on est en train de rejoindre la notion de darwinisme social qui a été posée par Spencer au 19e siècle. Où voilà, c'est la lutte, la compétition du tout contre tous, mais qu'aujourd'hui, les tenants de la techno-utopie ne nous disent même plus « Oh, mais ça, vous allez en profiter tous !» Non, s'il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter, c'est pas bien grave. Et lui se positionne en tant qu'individu, il n'y a qu'il ne juge pas, c'est comme ça. La vie est comme ça, il y aura des perdants, des gagnants. C'est juste, donc ça, c'était plus prévu pour tout à l'heure, parce que c'était un petit peu débat de qu'est-ce qui rendu la technologie, qu'est-ce qu'elle essaie de nous promouvoir, c'est-à-dire un bien-être grâce à des applications, des algorithmes, un ensemble d'un paysage technologique qui nous amène donc à évoluer. Simplement, après moi, étant technocritique, on a un problème de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie ne peut pas être universelle. On n'a pas assez de ressources sur Terre. Aller exploiter des ressources dans l'espace, ce n'est pas gagné. Parce que là aussi, il va falloir beaucoup de ressources pour pouvoir aller dans l'espace. On a un véritable problème énergétique. Donc aujourd'hui, on se prend un rêve. Et que ce rêve aussi, je parlais juste, moi, c'est un petit gadin, mais l'observation, par exemple, de l'outil du smartphone, l'usage qu'on en fait. Il y a une étude très intéressante qui a été faite, c'est qu'aujourd'hui, la GPS, alors un, c'est une étude scientifique qui a été faite, les gens ont du mal à se repérer physiquement, naturellement, ils perdent cette notion de se repérer sans avoir leur GPS, mais surtout, ce qui fait craindre l'étude, c'est qu'on perde à terme une fonction cognitive et ça de concevoir des cartes abstraites dans sa tête. Car moi, par exemple, quand je travaille sur un test, j'ai mon plan dans ma tête. J'arrive à concevoir des choses, et je pense que vous tous arrivez à concevoir des choses de manière abstraite. Et bien, l'abus de la technologie, cette addiction-là, est en train de nous faire perdre cette compétence. Donc, est-ce que là, la technologie nous amène en plus, c'est-à-dire se repérer facilement, ou bien est-ce qu'elle est en train de nous faire perdre quelque chose? Donc, du coup, c'est la question de la neutralité, c'est que l'usage de la technologie n'est pas du tout neutre. Donc ça, c'est un courant de la pensée en France. Eric Sadar, par exemple, où je conseille la maison d'édition Main et Pièces d'œuvre, chez moi, des Gaulois, qui travaillent beaucoup là-dessus. Mais bon.
Oui, je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit un petit peu plus tôt, sur le fait qu'il y a des gagnants et des perdants. Oui, effectivement, lorsqu'on parle d'avancées technologiques de manière générale, nous, c'est vrai qu'on est dans un pays globalement riche, dans un pays occidental, enfin, dans un pays qui est quand même assez riche, assez avantageux, on va dire, sur pas mal de points de vue. Et c'est vrai que de notre point de vue, la technologie, c'est quelque chose dont on parle dans des micros qui ont été fabriqués avec des composants qui viennent je ne sais où. La lumière est fournie par l'électricité qui est fournie par une autre technologie, et le fait est qu'on en est extrêmement dépendant, mais surtout, effectivement, comme tu dis, le fait que, que la partie du monde dont nous faisons partie, que le monde dont nous faisons partie, profite de la technologie, on profite d'une technologie qui est produite dans des pays qui sont pauvres, qu'on appauvrit même en faisant ça, en extrayant des matériaux qui sont rares, qui effectivement sont en quantité limitée. Et le fait est que ce qu'on considère nous comme une utopie, ce n'est pas c'est quelque chose qui n'est absolument pas universel et qui n'est pas du tout... justement, j'ai parlé tout à l'heure du voyageur imprudent de Barjavel, là, plus globalement, ça me fait penser à Ravage, qui est, je pense, son roman le plus connu, dans lequel... en gros, l'électricité sous la forme sous laquelle on la connaît, le roman se passe en 2046, je crois.
Oui, le roman de 2043.
Voilà, qui est un auteur de roman, donc il faut lire. Et en fait, Ravage nous explique que l'électricité sous la forme dans laquelle elle existe disparaît. Elle disparaît de la forme dans laquelle elle existe et toute la civilisation s'effondre en quelque sorte. Donc c'est un roman qui se passe en France où le héros, qui s'appelle François Deschamps, je crois, habite à Paris. Lui, il a fait des études agricoles en quelque sorte. Et tout son périple va consister à sortir de Paris qui s'effondre véritablement. On voit les gens qui sont désemparés, qui ne savent plus comment se nourrir, on n'incinérait plus, par exemple, les cadavres, on les exposait dans des espèces de pièces au centre des appartements. Et étant donné qu'il n'y a plus d'électricité pour alimenter le système qui refroidissait les cadavres, en quelque sorte, et ben les gens sont chez eux à voir les cadavres de leurs ancêtres pourrir sous leurs yeux. Ils se précipitent dans la Seine parce qu'ils ont besoin de manger, ils essaient de prendre du poisson, mais ils ne savent plus comment ça marche. Et tout le roman décrit le fait que qu'on a besoin d'un retour à la nature et d'être complètement séparé de la technologie. Et je vais sans aucune vergogne vous dire la fin, parce qu'après tout, il est sorti il y a un petit moment, à savoir que la société se reconstruit petit à petit de manière beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus simple en quelque sorte, et qu'il y a un personnage qui invente un truc qui ressemble un peu à un tracteur, et la population le détruit parce que c'est la technologie qui a fait que la société s'est effondrée, et qu'en fin de compte, est-ce que ça vaut vraiment le coup de reproduire les horreurs du passé? Est-ce que c'est pas mieux justement de rester dans une sorte d'innocence où on mange des fruits?
Depuis le 19e jusqu'à nos jours, et notamment par exemple la science-fiction anglaise, il y a énormément de romans dans les années 60, 70. Par exemple, il y a des dormeurs et des lits qui vont se retrouver dans un futur post-apocalyptique entièrement dévasté, et va se poser la question de la renaissance ou non. C'est-à-dire que le personnage, comme il vient d'un monde civilisé, il est porteur de la renaissance. Alors, il y a un roman qui s'appelle Verne d'Acier, le nom de l'auteur. Et c'est ça, c'est un personnage qui, dans une utopie techniciste dans un futur lointain, qui est cryogénisé, qui se retrouve 500 ans plus tard dans un futur où on est revenu à un stade néo-médiéval. Et alors, c'est un personnage qui n'a pas énormément de compétences, mais il va pouvoir introduire la notion de la machine à vapeur. Et donc, ça sera le premier acte d'une renaissance de la civilisation. Ça, c'est une des grandes thématiques dans la fiction post-apocalyptique. Et de manière globale, pour repasser la parole, la fiction post-apocalyptique, c'est une des fictions qui aborde une critique de notre société. C'est-à-dire le fait de montrer un monde qui s'est effondré permet d'avoir d'établir un champ d'interrogation et de questionnement sur notre propre société de l'avant. Et donc, bien fait ou pas de la technologie.
Je ne suis pas totalement d'accord, parce que je crois que l'essentiel de la science-fiction, au-delà du post-apocalyptique, est un questionnement sur notre présent, que ce soit sur la technologie ou sur la sociologie, la psychologie, la société telle qu'elle est, etc.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Simplement, dans le champ post-apocalyptique, il y a cette thématique-là. Après, c'est l'ensemble de la science-fiction qui apporte ces questions.
Et ce débat sur la technologie permettait aussi de conclure dans une certaine mesure la première partie qui permet de voir que le concept de dystopie, d'utopie, de contre-utopie est quelque chose que nous expérimentons au quotidien. Chaque décision qui est prise de production ou autre nous permet de nous diriger plus ou moins vers l'une ou l'autre de ces étapes. Et donc, du coup, ce qu'on pourrait voir, pour revenir du coup à la thématique de cette table ronde qui est cinéma et littérature, c'est de voir comment la forme de la dystopie, de l'utopie et de la contre-utopie sont des formes qui sont purement littéraires, quasiment depuis le 19e siècle, on va dire jusqu'en 2008-2009. Après, on a vu de plus en plus de productions cinématographiques arriver avec le cinéma, forcément, et ces dernières années, mais comme il était dit encore une fois dans la table ronde précédente, très justement, ces adaptations ont toujours un temps de latence. La Guerre des Mondes d'H.G. Wells sera adaptée à la radio dans les années 50, je crois, okay, 38. Alors qu'il est sorti bien avant, et sera adapté au cinéma, je crois, à l'orée des années 2000, par Spielberg, si je ne me trompe pas.
Il y en a eu
d'autres, oui, effectivement. Mais on voit qu'il y a un temps de latence entre le cinéma et la littérature, et la question que je voulais vous poser à tous les quatre, c'était de savoir si le cinéma, pourquoi le cinéma avait du mal à s'approprier cette forme-là. Et si une solution à tout ça ne serait pas de passer par une production directe, comme c'est le cas depuis 2010 avec certaines productions, notamment de
séries. Well, it's not quite true. I mean, we have lots of bestsellers that translated into cinema very quickly.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous avons un certain nombre de best-sellers qui ont été adaptés très rapidement.
I mean, a recent example would be The Hunger Games.
Comme récemment les Hunger Games.
Justement, c'est ce que je disais à partir de.
You're saying it started in 2008 that they started to get quicker.
It started to get quicker.
Before this time, it was.
Okay. I could quote 2001: A Space Odyssey. It was written at the same time as a book and a film, but and is perhaps a look forward to utopia, but we don't know because it's the whole point of the film is to give an enigmatic answer as to whether we've been improved or not by the end.
À ce moment-là, on peut parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, où le roman et le film sont très contemporains, et on peut se demander s'il n'y a pas une dimension utopique quelque part, même si la fin est très énigmatique et pose et répond à la fois à des questions sur est-ce que l'augmentation technologique peut être bénéfique ou non.
Oui, mais justement, pour dire que je n'étais pas du tout d'accord avec toi. Je pense notamment, enfin, c'est clair un petit peu idiot, mais je pense notamment à ce qui reste et qui restera toute ma vie mon film préféré, c'est dans Demolition Man, qui puisse pas mal dans les univers littéraires, comme le fait que le personnage féminin de Sandra Bullock s'appelle Lenina Huxley. C'est quand même lourd de sens qu'on a le grand méchant en quelque sorte qui s'appelle Cocteau. Et je trouve que le film est très intéressant parce que justement, c'est un film d'action dont les personnages principaux, à savoir le flic qui est interprété par Stallone et le fugitif qui est interprété par Wesley Snipes avec de très beaux cheveux blonds, sont en fait cryogénisés en 1994, je crois. Le film sorti en 93, mais je crois qu'ils sont cryogénisés en 96, je ne sais plus, dans les années 90. Et en fait, qui sortent en 2042, qui sont des cryogénisés en 2042. Et on a donc, et en fait, ils atterrissent dans une société qu'ils ne comprennent plus, où par exemple, on n'a plus le droit de dire des gros mots, parce que dès qu'on dit des gros mots, on prend une amende. Ou lorsqu'on veut faire des enfants, et bien, il y a une sorte de. C'est pas vraiment explicite, mais il y a une sorte de procréation médicalement assistée, où les individus n'ont plus vraiment le droit de se toucher, où ils ne font même plus de high-five, un truc totalement ridicule. Et je trouvais que justement, c'était. De manière générale, je trouve que c'est un film qui, de loin, peut avoir l'air d'un espèce de blockbuster complètement idiot avec deux imbéciles qui lancent des télés à la figure en balançant des punchlines. Mais avec un peu de recul, je trouve que le film est très intéressant justement parce qu'il montre le décalage entre deux personnages qui sont montrés. Deux personnages qui sont extrêmement violents et pour qui la violence résout pas mal de choses et qui débarquent dans une époque où, au contraire, les gens sont dans une société totalement pacifique, mais pacifique en surface. Et je sais pas, c'est pour ça que Demolition Man prend vraiment est un pur produit des années 90 avec un gros actionneur
qui de loin peut avoir bête, qui peut sembler bête et méchant, mais il y a quand même des influences littéraires qui sont très intéressantes, et le développement, je trouve, de l'univers, on voit un personnage comme ça, bah, qui est semblable à nous, en quelque sorte, qui découvre un univers totalement aseptisé, dans lequel les gens ne mangent plus de viande, ne mangent plus de sel, où en fait, je crois que la réplique d'un des personnages, c'est ce qui est... le personnage s'étonne qu'il n'y ait pas de sel sur la table, il fait « mais il n'y a pas de sel », il fait « non, ce qui est... ce qui est mauvais pour nous est considéré comme, ce qui n'est pas bon pour nous est considéré comme mauvais et de fait est interdit. Ce qui fait que les êtres humains sont privés de faire énormément de choses tout simplement parce que on a arbitrairement décidé de ce qui était bon et ce qui était mauvais pour en quelque sorte la survie de la société et pour supprimer ce qui est considéré comme l'instinct naturel des hommes par les personnages, qui viennent des années 90, à savoir le fait de se faire mal au ventre en mangeant de la viande, en mangeant du sel, en étant violent physiquement. Et... je ne sais plus exactement quelle était ta question, mais je ne suis pas d'accord avec toi.
I was getting a little confused there between Demolition Man and Sleeper or everything.
Un petit peu confus, ça devient un petit peu confus. On parle de Demolition Man, d'homme réveillé.
Where Woody Allen wakes up and discovers that everything that was bad for you is in fact good.
Et là, on pense à Woody Allen qui se réveille pour découvrir que tout ce qui était considéré comme mauvais pour nous est en fait très bon.
So maybe Sleeper was a parody of Demolition Man before Demolition Man was made.
Et donc peut-être que Sleeper était une parodie de Demolition Man avant la sortie de Demolition Man.
So that's an example of a film anticipating another film.
Donc c'est un film qui est une anticipation d'un autre film.
But I think a more interesting question than chronology, because quite often in the film business.
Donc la grande question est la chronologie, parce que très souvent dans le business du cinéma.
Films aren't made when they should be made for various very silly reasons.
Les films ne sont pas réalisés quand ils devraient être pour des raisons souvent très stupides.
That have nothing to do with artistic choice.
Qui n'ont absolument rien à voir avec le choix artistique.
And everything to do with lots of money.
Et tout à voir avec beaucoup d'argent.
A more interesting question is perhaps what happens when films adapt a book? Are they true to it or not?
La question plus intéressante était aussi de se demander si, quand un film adapte un bouquin, il le respecte ou pas.
Can they turn a dystopia into a utopia?
Est-ce qu'un film peut transformer une dystopie en utopie?
Or vice versa.
Ou
l'inverse. Or the other way around. Yeah, sorry. Yeah. Oh, good. I'm thinking of Minority Report, which.
Je pense par exemple à Minority Report.
Another big blockbuster film.
Un autre blockbuster
based on a very small Philip K. Dick short story.
Basé sur une très courte nouvelle de Philip K. Dick.
Which is, I guess, supposed to be utopia.
Dont on peut penser de la nouvelle que c'était une utopie.
But on the other hand, shows some very attractive technology.
Mais montre une technologie très attirante.
So you end up with the question is it an ideal society or not?
La question devient à ce moment-là, est-ce une société idéale ou pas?
Which is not the question that Philip K. Dick was asking in his little short story.
Qui n'est absolument pas la question que se posait Dick dans son histoire.
And I think another example would be iRobot.
Un autre exemple serait iRobot.
Which was asking all kinds of very stupid questions, I think.
Qui posait énormément de questions stupides.
Which Asimov wasn't asking.
Asimov ne posait pas.
So, you know, films are quite often fairly blunt instruments when it comes to talking about turning text into a different art form.
Et donc les films sont plutôt des armes contondantes quand il s'agit de passer de la littérature au cinéma.
À ce niveau, l'espoir peut être dystopique. Est-ce qu'il ne résiderait pas dans toute la littérature qu'on appelle young adult? Parce qu'on a vu récemment, depuis 4 ou 5 ans, adapter des dizaines de romans, on va dire, de jeunesse au cinéma. Je pense aux Passeurs, The Giver, à Divergence, à Hunger Games, Labyrinthe, Les 100 qui ont été adaptés en série télé. Et à chaque fois, on adapte des œuvres qui sont très proches dans le temps de la sortie entre le film et le livre. Et de plus en plus, on voit que sur tout ce type de littérature, on a de plus en plus de sorties qui reposent la question de l'univers dystopique, de la contre-utopie, de l'utopie peut-être, on ne sait pas pour certains. Et du coup, est-ce que, au niveau des liens entre cinéma et littérature, une des clés dans l'utilisation moderne de la dystopie ne résiderait pas justement dans cette littérature du young adult que peut-être la littérature, on va dire, plus mature aurait délibérément abandonné.
En ce qui me concerne, je suis un petit peu circonspecte sur la question parce que la question à se poser, c'est peut-être est-ce qu'il n'y a justement pas plus d'œuvres qui sortent maintenant sur ces thèmes-là, tout simplement parce que c'est devenu une sorte de mode. Et du coup, est-ce que peut-être que dans 5 ou 10 ans, on se retrouvera à faire une sorte de tri en disant bah, cette saga-là, elle était très intéressante, celle-là, elle est un petit peu moins. Est-ce que justement le fait qu'il y ait beaucoup de sorties maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent maintenant, comme tu dis, sur la littérature un peu jeunesse, jeunesse-adolescente, est-ce qu'il y en a qui sortent maintenant sur le sujet parce que ça marche et du coup il y a plus d'éditeurs qui veulent se focaliser là-dessus en prenant aveuglément ce qui sort
Oui, tout à fait, mais c'est justement parce qu'il y a une sorte de mode qui a peut-être une sorte pas de refuge, mais d'élan qui peut porter la science-fiction dystopique pour lui redonner un peu un blason qui semble un peu disturbé.
Cette littérature a peut-être également la possibilité pour des lecteurs qui vont découvrir ces univers-là de commencer par ces œuvres-là pour ensuite se diriger vers des œuvres qui sont plus des classiques.
Mais par exemple, sur la série des 100 qui est adaptée du roman de Hanwell, les chiffres d'audience aux États-Unis montrent que, à défaut du public originel qui sont les 16-25 ans, ciblés par cette série, ce sont plutôt soit des très jeunes, soit des gens adultes qui regardent cette série. Et du coup, voilà, on voit que le concept de, on va surfer sur la mode du young adult, là, du coup, il a trouvé un autre public. Donc voilà, c'était peut-être là-dessus que je voulais enchaîner.
Well, they're big movies, and people go and see a big movie. You're quite right. I mean, the reason why there's lots of films and books like The Hunger Games.
Ce sont des grands blockbusters. Les gens vont voir ce genre de blockbusters. Mais vous avez raison. La raison pour laquelle il y a autant de nouvelles dystopies jeunes adultes, autant d'adaptations cinématographiques.
Is that The Hunger Games made a lot of money?
Et que The Hunger Games a rapporté énormément d'argent.
And we mustn't forget it doesn't cost very much to write a book.
Et il ne faut pas oublier qu'écrire un livre ne coûte pas grand-chose.
But if you want to make a big film, it costs an awful lot of money.
Alors que quand on veut faire un grand film, ça coûte énormément d'argent.
It takes more money than a publisher will spend in 10 years.
Ça prend plus d'argent que ce que dépenserait un éditeur en 10 ans.
On several hundred books.
Sur plusieurs centaines de romans.
But that's not to, I don't want to do down The Hunger Games, it's an interesting film.
Je ne veux pas dénigrer The Hunger Games, c'est un film intéressant.
Well, and also an interesting book, of course.
Et un roman intéressant.
And it's got a very simple, attractive story.
Et l'histoire est simple et séduisante.
That gifted teenagers will show adults the error of their ways.
Que des adolescents doués sont capables de montrer aux adultes là où ils se trompent.
Which of course is fabulously attractive to teenagers.
Ce qui bien entendu est extrêmement séduisant pour les adolescents.
It's the kind of thing that all teenagers dream of, including me.
C'est le rêve de tous les adolescents, moi y compris.
And so of course it's, you know, it's a wonderful, in a base, a very wonderful, simple, powerful story.
C'est une histoire simple mais merveilleuse et très puissante.
But it's a very powerful, simple fantasy.
Mais c'est un fantasme. Un fantasme assez simple et très puissant aussi.
So, in a way, it is a utopia because all utopias are fantasies.
Parce que, et oui, dans un sens, c'est une utopie plutôt puisque les fantasmes sont des utopies.
But what lessons it can teach us for advancing our society and correcting all the problems that we've been talking about here?
Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de comment faire avancer notre société et la changer?
What lessons it can teach us about that, I'm unsure.
Et ça, je ne suis pas sûr de ce que ces romans et ces films peuvent nous apprendre sur notre avenir.
Eh bien, justement, l'avenir, parlons-en.
Okay,
on dira un imaginateur de Tokushu. À propos de la dystopie, justement, puisque c'est un peu le thème de la table ronde, une question nous vient quand on parlait tout à l'heure de George Orwell et de 1984, qui est le summum de ce qu'on peut imaginer quand on parle de dystopie dans la littérature. Il y a plusieurs façons d'aborder cet ouvrage et j'ai choisi celle de lire cet ouvrage comme un pamphlet. C'est-à-dire comme voilà ce qui pourrait arriver, voilà ce qu'on ne veut pas, voilà. Rappelle peut-être sur...
En 1984, c'est un pamphlet. Et il faut bien rappeler que c'est un livre au premier degré. En vrai, je pourrais expliquer que c'était une transposition de ce qui est destiné à la pensée extrême d'un idéologue parti. Et Orwell a vu ce livre comme étant un pamphlet. Et non pas comme une œuvre hyper sérieuse qui est censée nous dire ce que sera la vie de l'avenir. C'était vraiment, voilà, ça, c'est une dimension.
Et sur ce livre qu'on considère de moins en moins comme un pamphlet, mais de plus en plus comme un guide des mauvaises manières en politique, on va dire, est-ce qu'à partir de cette vision qui a dérivé de considérer l'œuvre pour ce qu'elle est, ce que l'auteur a voulu en faire, c'est-à-dire un pamphlet, jusqu'aujourd'hui a juste un choix purement dystopique, et un classique, ce qui au final tue le message quand on range une œuvre dans le terme de classique bien souvent, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ça pour porter un regard rétrospectif sur notre présent, un peu à l'instar d'Arthur C. Clarke quand il porte un regard sur sa carrière et qu'il en rit dans un de ses derniers romans? Est-ce qu'on ne peut pas se demander justement si à l'heure actuelle on ne vivrait pas en dystopie ou au moins en contre-dystopie? Voilà. Et du coup, c'est une question que je vous pose.
1984, d'accord, mais à ce moment-là, il faudrait aussi ajouter et Brave New World, donc comment... le meilleur des mondes, et Un bonheur insoutenable d'Ira Levin, qui joue sur le même genre de jeu, et d'autres dystopies de la même époque qui posent des questions différentes sur la société et parlent aussi de technologie, mais aussi de médecine, de chimie et d'anthropologie, de la manière dont on peut manipuler l'homme, non pas par la politique mais par la chimie elle-même, et par les médicaments, par la malbouffe, etc. Je crois que la question doit être ouverte à un certain nombre de dystopies et ne pas se limiter à la dystopie politique de 1984.
It's not only technology, it's not only physics, it's also chemistry, it's also medication, it's also food. That's important in the changes in society, but in the future of what may be going to utopia. And each of these books brings a piece of truth. And these panoramic dystopias give us an idea of what we're
going to do in the future. Et rapidement, chacun de vous, est-ce que vous pourriez donner en une phrase, allez, parce que sinon on va discuter sur le timing. Est-ce qu'à votre avis, on est dans une utopie ou dans une utopie, pourquoi pas, dans une dystopie ou dans une contre-utopie, ou est-ce qu'on s'en fout?
Très court. Orwell décrit en 84 une dystopie qui est fondée sur une idéologie totalitaire qui reste un individu. Aujourd'hui, on est dans un système capitaliste qui fonctionne par la séduction. Et ce que j'aime toujours, et je conclurai là-dessus, c'est l'exemple du télécran dans 1984. Wilson, donc il y a un télécran dans les appartements de cette dictature, il ne peut jamais couper le bouton. C'est-à-dire que le flot de la propagande de l'État passe en permanence et il ne peut jamais éteindre l'image et il ne peut jamais baisser complètement le son. Donc on est dans un système qui est réprimé, qui impose son point de vue. Aujourd'hui, dans le système néolibéral, eh ben, on a renversé le rapport, c'est que c'est l'individu qui au contraire allume le bouton. Et surtout ne le coupe pas, parce que le fait de se couper du réseau, c'est se couper des gens, c'est se couper d'une existence sociale. Donc aujourd'hui, le système, c'est nous, le réseau.
Pourquoi nous sommes dans une forme de dystopie,
ce que j'appelle une dystopie bienveillante?
Moi, je parlerais plutôt de contre-utopie. parce que personne ne nous dit que nous vivons en utopie. Personne ne nous dit que le monde, dans la civilisation actuelle, notre culture, notre monde, est le meilleur possible. Par contre, ce que nous vivons, ce vers quoi nous allons, est un cauchemar. C'est pas exactement la même chose.
Je suis un petit peu partagée sur la question parce que comme j'en parlais un petit peu plus tôt, peut-être que nous, de notre point de vue, on est en utopie parce que c'est vrai qu'on vit à une époque où en France, de manière assez générale, on va dire, on a accès aux soins assez facilement, on a accès à de la nourriture assez facilement et on a accès également à de la technologie de pointe en quelque sorte pour un prix à peu près abordable, on va dire. Donc peut-être que nous, de notre côté, de notre point de vue d'occidentaux, on est en utopie, mais effectivement, je pense qu'on est plus en une dystopie. Déjà parce que notre système se fait aux dépens d'autres systèmes, aux dépens d'autres peuples, d'autres pays, et aussi parce qu'il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Et je pense qu'on a atteint un point dans notre société où on est très avancé technologiquement parlant, notamment, et va difficilement pouvoir continuer à progresser sans forcément qu'il y ait des dégâts encore plus chez les pays qu'on exploite et aussi de notre côté à nous.
Une contre-utopie, deux dystopies, et Paul, qu'est-ce que vous en pensez?
I kind of hope that we're living in a utopia, but it's just not very evenly distributed yet.
Oui, je dirais que nous vivons dans une. J'espère que nous vivons dans une utopie, mais elle n'est pas très bien distribuée. Ce qui est une fameuse phrase de William Gibson, d'ailleurs, sur le progrès, en fait.
C'est une belle conclusion. Et moi, comme je suis un vif chacun, je ne donnerai pas mon avis.
J'aurais juste quand même rajouté juste un exemple d'une œuvre qu'il faut regarder. C'est le deuxième épisode de la série Black Mirror, série anglaise. C'est 15 millions de mérites. Et je vous conseille de regarder cet épisode parce que, comme vous l'avez dit, Sarah, c'est le cauchemar qui est en train d'arriver. Et que cet épisode est exemplaire en ligne de cette démonstration. Voilà.
Et donc, voilà, maintenant, je pense qu'on peut demander notre.
In Britain, we think Black Mirror is funny.
In Belgium, we think the same thing. Donc, dans les pays britanniques et en Belgique, on trouve que Black Mirror est un film, est une série très très drôle.
Et donc, on peut peut-être demander l'avis du public ou faire un 50-50 ou un appel à la. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.